Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat reposant. Nous avons des fêtes, tout au moins en France, presque tous les mois. Il y a Noël, il y a ce qu'on appelle le Saint-Sylvestre, il y a le Saint-Valentin, il y a les Pâques, coutume d'œuf, donc il faut trouver dans le jardin. Il y a le Saint-Valentin, il y a le Saint-Jean, la Sainte-Catherine, il y a aussi la fête des grands-mères au mois de mars, la fête des mères au mois de mai, la fête des pères au mois de juin, et une fête qui est relativement récente, c'est la fête des grands-pères, au mois d'octobre. Il y a aussi Halloween, la fin du mois d'octobre, et la Toussaint, au mois de novembre. Et aujourd'hui, j'ai voulu aborder une de ces fêtes, et c'est le sujet de ce sermon, Saint-Valentin et la fête des amoureux. Saint-Valentin et la fête des amoureux. L'ancienne fête romaine des Lupercales était le précurseur de cette fête. Et la fête des Lupercales avait lieu entre le 13 et le 15 février. Lubricus était le dieu de la fertilité. Et il y avait effectivement une cérémonie de purification et de fertilité. D'après les renseignements que nous avons, pour commencer, des luberques, c'est-à-dire des prêtres de la Rome antique, se réunissaient dans une caverne sacrée où l'on prétendait que les jeunes Romulus et Remus, ces noms vous sont probablement familiers, donc on prétendait que les jeunes Romulus et Remus, les prétendus fondateurs de Rome, avaient été élevés par une louve. Et ces prêtres, à l'époque, y sacrifiaient un bouc pour la fertilité et un chien pour se purifier. Ils découpaient ensuite la peau du bouc en lambeaux, les trempaient dans le sang du sacrifice et paradaient dans les rues, giflant gentiment les femmes et les fruits de récolte avec la peau du bouc. Les femmes romaines n'avaient pas peur, au contraire, elles appréciaient le fait d'être touchées par ces peaux, par ces lambeaux de peau, car elles pensaient que cela les rendrait plus fertiles dans le courant de l'année. Plus tard, ce jour-là, d'après la légende, toutes les jeunes femmes de la ville plaçaient leur nom dans une urne. Les célibataires de la ville choisissaient chacun un nom et s'associaient avec la femme choisie pour l'année. Et ces couples se mariaient souvent. Mais d'après Noël Ledsky, qui est professeur de religion à l'Université de Yale, aux États-Unis, je cite, « Ces romantiques romains étaient ivres et ils étaient nus. Les jeunes femmes faisaient en fait la queue pour toucher ces hommes car elles croyaient que cela les rendrait fertiles. » Donc nous voyons déjà à l'origine le côté païen de cette fête et le côté péché qui y était associé. J'ai voulu vous lire un extrait, du World History Encyclopedia, l'encyclopédie donc de l'histoire du monde, au moins 3 personnes portant le nom de Valentin à Rome ou à Terni, ainsi qu'en Afrique, furent associées à cette fête et toutes furent martyrisées par les Romains. La première variante de la légende raconte l'histoire d'un prêtre chrétien de Rome, nommé Valentin, nous sommes maintenant au IIIe siècle de notre ère, qui défia les ordres de Claude II, qui interdisit au jeune homme de se marier, car il avait un besoin urgent de troupes pour combattre les puissances rivales. Et cela créait une barrière juridique infranchissable pour les jeunes amoureux qui ne souhaitaient rien d'autre que d'être ensemble. Et c'est alors que Valentin intervint pour marier les jeunes couples en secret. Fin des citations. Et de la plupart des versions de cette légende, le 14 février est la date liée à son martyr. L'histoire de Valentin se poursuit. Quand nous arrivons à la fin du 5e siècle, le pape Gélas a établi Saint-Valentin dans le but de convertir cette fête païenne romaine de la fertilité que nous venons de voir en une fête chrétienne, conservant ainsi ses attraits et facilitant l'acceptation du christianisme par les païens. Comme nous avons vu tout à l'heure, il n'est pas clair quel Valentin était honoré ce jour-là, car il y avait 3 personnes ainsi nommées, dont la tradition veut qu'elles aient été martyrisées le 14 février. Mais l'Église était assez astucieuse pour maintenir le jeu de hasard en vie en raison de sa popularité. Mais il a remplacé les noms des femmes par les noms des saints. Et hommes et femmes ont participé donc au tirage au sort, et on leur a demandé d'imiter la vie du saint dont ils avaient tiré le nom pour l'année suivante. Et petit à petit, les Romains ont abandonné leur fête païenne et l'ont remplacée par cette nouvelle fête qui a été instituée par l'Église. Poursuivons notre résumé historique et nous voyons avec Wikipédia, sous le sous-titre « Origine médiévale en Angleterre », toujours le même sujet, Valentin, Saint-Valentin, je cite Wikipédia, « La première mention du jour de la Saint-Valentin, avec une connotation amoureuse, remonte au XIVe siècle en Angleterre, où l'on croyait que le 14 février était le jour où les oiseaux s'appareillait. Un peu plus loin, cette croyance est mentionnée dans les écrits de Geoffroy Chaucer au XIVe siècle. Il était courant, donc, déjà à l'époque, durant cette période, que les amoureux échangent des billets et s'appellent chacun leur Valentin. Un de ces billets du XIVe siècle se trouverait à la British Library. Bien entendu, cette fête n'est pas enseignée par la Bible. Et lorsque nous regardons loin en arrière, c'est ce que nous venons de faire en partie, nous pouvons constater qu'elle a été fondée sur une fête de fertilité païenne, pré-chrétienne, et qui a été remplacée par la fête de l'Église. À notre époque, on décrit le Saint-Valentin comme fête inoffensive pour les amoureux. Mais quand nous regardons les liens historiques et les rites de fertilité païens qui lui sont associés, nous pouvons constater que c'est une fête de plus que Dieu ne souhaite pas que son peuple observe, que que Dieu ne souhaite pas que son peuple observe. Nous ne célébrons pas Saint-Valentin pour la même raison que nous ne fêtons pas beaucoup d'autres fêtes dites chrétiennes. Le Saint-Valentin ne passe généralement pas pour une fête chrétienne. Ses origines sont païennes et Dieu nous dit de renoncer à de telles pratiques. Il y a des gens qui vont parler de l'amour en parlant du Saint-Valentin. C'est une fête d'amour. Et nous allons regarder ça plus loin dans le sermon. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu était très concerné que le culte d'Israël, la pratique de leur culte, n'englobe pas des éléments, certains éléments païens, d'aucune façon. Il a même spécifiquement averti Israël, garde-toi de te laisser prendre au piège et un peu plus loin de t'informer. Ceci dans les pratiques païennes, les cultes païennes. Et nous allons voir ça dans Deutéronome, si vous voulez bien, Deutéronome chapitre 12 et le verset 30. Nous allons commencer à lire à partir du verset 29 pour situer un petit peu le contexte. Deutéronome chapitre 12, verset 29, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aurait exterminé les nations que tu aurais chassées devant toi, lorsque tu les aurais chassées et que tu te seras établi dans le pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, parce que Dieu voulait qu'Israël pratique sa religion, une religion complètement différente, pure. » Sans aucune influence païenne. Verset 30, donc, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Il fallait faire place nette, il fallait commencer autre chose. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leur fils et leur fille en l'honneur de leur Dieu. Dieu n'a pas voulu qu'il donne un nouveau visage à une pratique ancienne et païenne. Dieu n'a pas voulu qu'il donne un aspect nouveau de quelque chose qui était mauvaise. Deutéronome toujours chapitre 12, Deutéronome 12 toujours, et le verset 3 et 4. Dieu a voulu qu'il détruise complètement tous les objets de culte que les païens avaient utilisés avant eux dans le pays. Chapitre 12, donc, verset 3. Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous brûlerez au feu les idoles, donc le fait de faire disparaître complètement, vous abattrez les images taillées de leur Dieu, et vous ferez disparaître le nom de ces lieux-là. Il fallait faire place nette. Verset 4. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Et c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos promesses, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos gros et de votre menu bétail. C'était un autre système. C'était le culte de Dieu. Nous savons que l'homme, à travers les siècles, a suivi ses propres coutumes. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 2 et le verset 8, Colossiens chapitre 2 et le verset 8, je ne m'y rapporte pas, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Dieu censure des coutumes et des pratiques qui ont leurs racines dans un culte erroné et dans une conduite immorale. Et il nous faut rester avec la vérité de Dieu. Dieu a sa voix, Dieu a sa religion, et Dieu ne veut pas que nous mélangions ce qui est erroné avec la vérité. Regardons, si vous voulez bien, ce que Jésus a clairement déclaré dans Marc chapitre 7, et à partir du verset 7. Marc chapitre 7, et le verset 7, c'est très clair. C'est en vain qui m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, il se détourne de Dieu pour suivre les commandements des hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il le dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Si nous regardons le contexte, nous voyons qu'il s'adressait à des pharisiens et à quelques scribes, mais bien entendu, ce principe est valable pour nous tous. Il faut faire attention de ne pas abandonner le commandement de Dieu et d'observer la tradition des hommes. Nous pouvons nous poser la question, quel est notre guide dans notre vie? Quel est notre guide dans notre vie personnelle? La vérité vient de Dieu. Quelques semaines en arrière, j'ai parlé des armes de Dieu qui est mentionné dans Éphésiens chapitre 6 et j'ai parlé entre autres de la ceinture de la vérité. C'est une armure. Et nous pouvons choisir la parole de Dieu pour nous protéger, justement, ou notre raisonnement humain. Pour prendre nos décisions dans la vie, il y a beaucoup de traditions, comme nous le savons, qui sont bien ancrées dans la vie, dans nos sociétés modernes, mais qui ne sont pas la vérité. Déjà à l'époque, nous voyons ça dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 7. Déjà à l'époque, c'était un problème. C'est ce que Paul disait à Timothée. 1 Timothée chapitre 4 et le verset 7. Il a mis Timothée en garde. Il dit dans le verset 7, « Repousse les contes profanes et absurdes. » Profanes et absurdes. La traduction second 21 parle de vieilles femmes. Et Martin dit est semblable au récit des personnes dont l'esprit est affaibli. Ce n'est pas tendre, mais c'est assez direct. Semblable au récit des personnes dont l'esprit est affaibli. Il faut que nous restions avec la vérité. Pas avec des anciennes pratiques païennes. Et si nous regardons quelques pages, une page plus loin, dans 1 Timothée chapitre et le verset 20, Paul dit toujours à Timothée, 1 Timothée chapitre 6 et le verset 20, « Ô Timothée, garde tes peaux en évitant les discours vains et profanes. » Et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Il faut éviter ce qui est profane, il faut rester avec la vérité de Dieu. J'ai regardé un article de France 3 qui est écrit en 2019, mise à jour en 2020, ça date maintenant de quelques années, mais je suis certain que ce que l'article a dit en 2019-2020 est toujours d'actualité. Et l'article dit ceci, pour certains, le Saint-Valentin est une vraie plaie. Ils sont de plus en plus nombreux à penser que c'est une fête, entre guillemets, purement commerciale. Le Saint-Valentin s'apparente aujourd'hui souvent plus à un business de l'amour qu'à une célébration romantique. De ce fait, il est légitime qu'ils soient nombreux à penser que le Saint-Valentin n'est pas la fête des amoureux, mais celle des fleuristes et des restaurateurs. Évidemment, les gens achètent des fleurs, les gens vont au restaurant, et effectivement, ça peut aussi être un business. Et il est évident que pour les gens qui sont seuls de la vie, quand le 14 février arrive, ils peuvent souffrir de voir les gens ensemble fêter ce jour, parce que eux, ils sont seuls. Et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer la différence par rapport aux fêtes de l'Éternel. Tous aux fêtes de l'Éternel, surtout la fête des tabernacles, tous ceux qui peuvent venir, viennent. Et la famille est au centre. C'est une fête familiale, mais avec en plus le fait d'englober tout le monde pour que tout le monde puisse se réjouir ensemble. C'est ce que nous voyons dans Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, à partir du verset 14. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, donc la famille, mais pas uniquement, ton serviteur et ta servante, et d'autres personnes plus éloignées de la maison familiale, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, qui seront là, qui vivront et qui vont aussi faire partie de la fête. Et il y a de la joie lors de la fête de Dieu. Verset 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Dieu a voulu que tout le monde puisse se réjouir et que tout le monde puisse être béni aussi. Personne n'était laissé de côté. Donc, la première partie de ce sermon, j'ai parlé des origines de Saint-Valentin et aussi ce que Dieu dit à ce sujet, au sujet des pratiques païennes. J'ai divisé ce sermon en 3 parties. Et la deuxième partie, c'est à propos des saints. Parce que on parle de Saint-Valentin. Dans le christianisme traditionnel, on parle d'un processus. On parle aussi d'un processus de canonisation. Mais c'est un processus qui a lieu après la mort de la personne. Regardons, si vous voulez bien, Actes chapitre 9 et le verset 32. Actes chapitre 9 et le verset 32. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendait aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il visitait tous les saints. C'était des gens qui étaient vivants. Verset 41. Nous voyons la même chose. Il appela ensuite les saints. De nouveau, nous avons des gens qui sont appelés les saints et qui sont visiblement vivants. Il appela ensuite les saints et les veuves et les représenta vivantes. Nous voyons également dans Apocalypse chapitre 19 et le verset 8, je ne m'y rapporte pas, je lis la version Martin. Et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin pur et éclatant. Or, ce fin lin désigne la justice des saints. Nous voyons donc que les saints, ce sont des gens qui pratiquent la justice. Le mot grec, le mot original traduit en français par saint, c'est le mot agios. Et dans le lexique de Strong's, lorsqu'il donne la définition, il parle, entre autres, du fait d'être mis à part. Et dans la signification, toujours de Strong's, qu'il donne, c'est le fait d'être mis à part par ou pour Dieu. Mis à part par ou pour Dieu. Vines parle de la signification de ce mot qui, et je cite, qui signifie fondamentalement séparé. Et donc, dans l'écriture, dans sa signification morale et spirituelle, séparé du péché et donc consacré à Dieu. Ça nous permet de comprendre ce qu'est un saint. Et la Bible se sert du mot saint pour décrire tous les vrais chrétiens, qu'ils soient morts ou vivants. La Bible parle des saints à propos des gens qui sont vivants, mais évidemment, ces gens, ces saints, finissent par mourir. Apocalypse, chapitre 17 et le verset 14. Apocalypse, chapitre 17 et le verset 14, c'est le retour de Christ ici. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. La Bible parle ici de nouveau des saints, et ces trois mots définissent en fait qui sont les saints de Dieu. Chacun de ces mots a une signification précise. Pour être saint, il ne suffit pas d'être appelé, parce que nous devons répondre à cet appel, à cette invitation de la part de Dieu, et ça requiert un comportement positif de notre part. Pour être choisi, une personne doit accepter son appel, doit être reconnaissante d'avoir été appelée et aller de l'avant en se soumettant à Dieu. Les appelés pour être élus ont aussi besoin de persévérer fidèlement dans les bons moments comme dans les mauvais. Et pour l'expliquer, à clairement expliquer quelles sont les responsabilités des appelés, dans Colossiens chapitre 3 et le verset 12, je lis Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 12 à verset 15. Et ceux qui sont appelés et élus sont aussi fidèles. Leur foi est constante, ils continuent à obéir à Dieu et de se fier à Dieu. Ils sont fidèles et ils persévèrent dans les bons moments comme dans les mauvais. Et les appelés, les élus et les fidèles, c'est-à-dire les saints, vont rejoindre le Christ quand il revient sur cette terre. C'est ce que nous venons de voir dans Apocalypse chapitre 17. D'après la terminologie biblique, un saint est un chrétien fidèle, quelqu'un qui a été appelé à sortir de la société de ce monde et qui a reçu l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui est saint de son vivant. Éphésiens chapitre 1 et le verset 1. Éphésiens chapitre 1 et le verset 1. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, donc ils ne s'adressent pas à des morts, ils s'adressent à des vivants, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Puis aussi, dans Colossiens chapitre 1, verset 1, Colossiens chapitre 1, verset 1, Paul de nouveau s'adresse à des saints, à des gens qui sont vivants. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Les chrétiens sont appelés à une vie de perfectionnement. Rassemblés de plus en plus à Christ, ils sont appelés des saints, un peuple saint. C'est ce qui met l'accent sur le fait que leur objectif, l'objectif d'un chrétien, est de devenir saint comme Dieu l'est. Et vous pouvez voir ça dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Je ne m'y rapporte pas. 1 Pierre chapitre 1 et le verset 16. Dieu a voulu que les enfants d'Israël se souviennent à l'époque toujours qu'il les avait sanctifiés. Pour être son peuple, qui les avait mis à part. Et tout comme l'ancien Israël devait être le peuple de Dieu, l'Église, de la même façon, est maintenant appelée à être son peuple, sa nation sainte. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, on retrouve ce mot élue, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et tout comme l'ancien Israël devait rejeter le péché pour obéir à Dieu, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, doivent aussi rejeter le péché. Nous pouvons aussi parler de l'avenir des saints. Nous sommes familiers, bien familiers avec 1 Corinthiens chapitre 15, la résurrection des morts, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le même sujet. Nous sommes familiers avec Apocalypse chapitre 20, où nous lisons « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection ». Mais regardons, si vous voulez bien, Daniel chapitre 7, et le verset 18. Daniel chapitre 7 et le verset 18. Je commence à lire à partir du verset 17 pour situer le contexte. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui se lèveront de la terre. Mais il arrivera la fin des règnes des hommes. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Les saints sont mentionnés dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Et ici, nous voyons le sort des saints. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité, pour toujours. Et il a été dit à Daniel dans le 12e chapitre, toujours de Daniel, « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Les saints vont recevoir le royaume. Ça, c'est donc la deuxième partie de ce sermon. La vérité sur les saints. Et la troisième partie, parce que le 14 février, c'est la fête des amoureux. Et j'ai voulu parler donc de l'amour. Et encore là, c'est la Bible qui nous guide. C'est Dieu qui définit ce qu'est l'amour. Les chrétiens, bien sûr, ont un amour qui est spécial, un amour qui vient de Dieu. Dans une de ses lettres, M. Franks a dit ceci, je cite, « Dans l'histoire de l'Église, certaines choses ne changent jamais. La nécessité de respecter les commandements de Dieu, la nécessité de s'aimer les uns les autres, la nécessité de se servir les uns les autres, et la nécessité de se rassembler le jour de sabbat et des jours saints. Nous ne devons jamais perdre de vue ces besoins importants. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le terme « les uns les autres » est utilisé dans 80 versets de la version New King James du Nouveau Testament. Et la plupart des versets qui incluent le terme « les uns les autres » parlent des chrétiens et de leur lien les uns avec les autres. J'ai regardé en français et j'ai voulu vous donner quelques références où la Bible parle les uns pour les autres. Nous le trouvons dans Romains chapitre 12 et le verset 10. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Il parle d'aimer les uns les autres dans Romains chapitre 13, juste à côté, Romains chapitre 13 et le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Je ne vais pas lire tous les passages que j'ai marqués, mais on le trouve également dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 11. 1 Jean chapitre 3 verset 11 et 2 Jean verset 5. Et 2 Jean verset 5. Les uns les autres. Il y a beaucoup d'amour qui est exprimé dans la Bible. Nous trouvons aussi trois autres références. Je vous laisse le soin de regarder ça à la maison. 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Jean 4 12. Romains chapitre 13 verset 8. Romains chapitre 13, verset 8 et Éphésiens chapitre 4 et le verset 2. Éphésiens chapitre 4 et le verset 2. Mais regardons, si vous voulez bien, 1 Pierre chapitre 4 et le verset 8. 1 Pierre chapitre 4, verset 8, où nous voyons à quel point la Bible nous encourage à avoir de l'amour les uns pour les autres. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Avant tout, les uns pour les autres. Une ardente charité, c'est quelque chose qui est très fort, quelque chose qui vient du cœur, car la charité couvre une multitude de péchés. De nos jours, il y a énormément de critiques. Mais la Bible parle ici d'un amour qui couvre une multitude de péchés. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On cherche à donner, on cherche à utiliser le don que Dieu nous a donné pour le bien d'autrui, pour le bien des autres. De mettre notre don au service des autres. Il y a un exemple qui est remarquable dans la Bible, d'autant plus qu'il s'agit de quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, a persécuté les chrétiens avec un zèle très intense. Cet homme, l'apôtre Paul, a complètement changé. Et nous voyons ceci dans Romains chapitre 10 et le verset 1. Nous voyons l'intensité de l'amour de Paul à ce moment-là, Paul converti, Paul qui a énormément changé. Romains chapitre 10 et le verset 1. Romains chapitre 10 et le verset 1. Paul ici parle de son propre peuple. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et nous voyons à quel point il voulait que son peuple soit sauvé. Si nous regardons Romains, toujours Romains chapitre 9 et le verset 1. Romains chapitre 9 et le verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, il insiste beaucoup. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites. Il était disposé à être séparé de Christ si ça pouvait aider les autres Israélites. Un amour intense, un amour profond. Il avait vraiment ses yeux sur les autres. Nous voyons toujours cet amour de la part de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 11, si vous voulez tourner la page, dans Romains chapitre 11, et le verset, à partir du verset 13, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Il voulait le bien de son peuple. Un grand dévouement pour son peuple. Et bien entendu, le 14 février est connu comme la fête des amoureux. L'amour romantique, si vous voulez. Mais est-ce que, je pose la question, avons-nous vraiment besoin d'une journée pour montrer notre amour à notre conjoint? N'est-ce pas quelque chose que nous devrions entretenir tous les jours, d'une façon continue, au cours de l'année, d'honorer celui ou celle que nous aimons de tous les instants? Nous ne devrions pas avoir besoin d'une publicité quelconque. Et bien entendu, nous pouvons être séduits en pensant que le fait de prendre une journée et mettre l'accent sur ce jour, or que dans la réalité, l'amour, c'est une chose quotidienne. Quelque chose que nous démontrons tous les jours de notre vie. L'amour, c'est d'aimer notre conjoint toute l'année. Bien entendu, il va y avoir des occasions que nous allons marquer. Par exemple, des anniversaires de mariage ou d'autres anniversaires, peut-être les anniversaires de fiançailles, où nous allons faire quelque chose de spécial, où nous allons marquer ce jour et montrer notre affection. Mais nous avons aussi l'occasion de montrer notre amour toute l'année. Du reste, la Bible parle de l'amour romantique d'une façon assez précise dans Proverbes chapitre 5 et le verset 18. Proverbes chapitre 5 et le verset 18. Pour situer le contexte, nous allons lire à partir du verset 15. Nous savons bien sûr à quel point la Bible souligne le fait de ne pas commettre l'adultère. Verset 15. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre en dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. » Ensuite, le verset de l'amour, l'amour romantique, que ta source soit bénie et fait ta joie de la femme de ta jeunesse. Verset 19. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes. Le langage est très poétique, mais aussi très fort. En tout temps, enivré de ses charmes qui vous ont séduit avant de vous marier, et c'est marqué soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour, de voir l'amour de son conjoint. Il y a également un passage dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 9. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 9. Vis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité. La vie est éphémère. La vie passe vite. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, c'est répété donc, tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Mais il ne faut pas être si pris par le travail que nous négligeons d'aimer notre épouse. La Bible parle également d'aimer ses ennemis, d'aimer les gens qui nous ont maltraités, qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir. Et je suis sûr que nous connaissons tous des gens qui nous ont fait souffrir. J'ai voulu terminer avec 1 Corinthiens chapitre 13 qui définit l'amour. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle ici, inspiré par Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire à partir du verset 4. Je vais lire la version second 21, où le mot amour est utilisé. 1 Corinthiens chapitre 13, donc, à partir du verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est le genre d'amour que nous, en tant que chrétiens, nous devrions rechercher. Surtout au sein de nos couples. Dieu est amour. Il nous montre son amour tous les jours. Et nous devons faire de même. Nous ne célébrons pas la fête de Saint-Valentin avec ses origines païennes.